affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy. Merci de votre fidélité dans notre émission de ce jour. Nous allons aller à la rencontre d'un écrivain, d'un membre de l'Académie française, mais pas n'importe lequel, car dans l'histoire, la longue histoire de l'Académie, cet écrivain occupe une place particulière, une place à part, car il s'agit de la première femme admise dans l'illustre compagnie. Il s'agit désormais, vous l'avez bien sûr reconnu, de Marguerite Yourcenar, reçue sous la coupole en 1981. C'est d'ailleurs par cet événement que nous allons probablement commencer notre évocation de Marguerite Yourcenar. D'abord parce que nous sommes la radio de l'Institut de France, mais aussi parce qu'il permet peut-être d'approcher d'emblée les malentendus, les paradoxes, les mécompréhensions qui nous ont empêchés ou qui ont pu nous empêcher longtemps d'approcher la vérité de cette femme complexe et que l'on a voulu souvent mettre dans telle ou telle case, mais qui a toujours échappé. Et pour rentrer donc dans cette, approcher du moins cette vérité de Marguerite Yourcenar, nous avons la chance de recevoir dans notre studio Henriette Levillain.
Henriette Levillain. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages et articles sur divers écrivains. Mais je citerai aujourd'hui celui qui nous intéresse, Yourcenar, carte d'identité. Ça ne vous ennuie pas qu'avant qu'on s'approche de l'écrivain lui-même, qu'on pose cet acte non pas fondateur de sa carrière d'écrivain, mais ce moment fort de sa carrière et de l'histoire de l'Académie qui est non pas son élection, mais son entrée sous la coupole.
Ça me paraît essentiel sous cette coupole qui est à côté, qui est voisine de nous. Et surtout, c'est ce jour-là, je pense qu'elle est devenue un peu fracassante. Cette femme, la première femme sous la coupole, a à la fois été évidemment admirée, mais aussi contestée par la suite. Bon, les féministes se sont dit « c'est le grand jour, nous allons pouvoir évidemment nous mettre sous ce parapluie et demander tous les avantages et libertés que nous souhaitions avant. Elle va pouvoir nous défendre, nous soutenir, écrire pour nous. » En réalité, c'est une femme et la première femme académicienne, mais elle a toujours d'ailleurs soutenu les débats des femmes. Mais en réalité, elle n'a pas été une militante. Sa vie, Marguerite Yourcenar, est une vie singulière. Elle est toujours un peu à part. Elle est à la fois peu ordinaire et un peu à part.
Oui, à l'époque, certains comparaient l'événement, dites-vous dans l'ouvrage, à une nouvelle querelle des anciens et des modernes, expliquant que c'était une nouvelle victoire des modernes.
Pas vrai, parce que si elle a été élue à l'Académie française comme première femme, c'est bien parce qu'elle pouvait être considérée, et on pouvait la présenter comme cela, comme une classique. Cette femme, elle a été nourrie des anciens, elle écrit parfois comme Tacite, et elle a toujours défendu la belle langue. Je ne crois pas du tout qu'elle puisse revendiquer une place parmi les modernes. Et d'ailleurs, je crois que ceux qui la lisent et ceux qui l'apprécient parce qu'ils retrouvent là toute une grande tradition du siècle des lettres, des lumières, de la belle littérature française.
À un moment où, en plus, on se préoccupe pas mal de nouveaux romans.
Donc... Alors justement, c'est ça. Et effectivement, elle arrive plouf au moment du premier roman. 68, c'est Zénon. Enfin, c'est l'œuvre au noir, bien sûr, qui n'a aucun succès hein, sur le moment. Sachez que c'est d'ailleurs la même année que Belle du Seigneur, qui n'a pas non plus de succès. Hein. 68, ça déborde dans tous les sens, et effectivement, on croit que c'en est fini d'une littérature de la belle langue. Donc, elle n'est pas du tout celle qui va promouvoir le nouveau roman. Elle fait comme si elle n'en avait jamais lu, si elle ne connaissait pas cela. Bon, comme finalement beaucoup d'écrivains de notre littérature que l'on a du mal à classer, elle n'est pas dans une case, Marguerite Yourcenar. Elle n'est pas dans une case. D'ailleurs, dès que vous voulez dire elle est vraiment classique, vous découvrez qu'elle écrit finalement ses souvenirs et que ses souvenirs ne ressemblent pas à des souvenirs d'hommes classiques. Donc, c'est extrêmement difficile de dire qu'elle est dans un courant littéraire ou elle est contre un courant littéraire. On a, je crois, plus intérêt à se plonger dans son œuvre et à se dire que bon, c'est une très grande œuvre. Voilà.
Oui, pour un écrivain, c'est toujours très bien de commencer par ses...
voilà, exactement.
par ses livres. Revenons toutefois à son élection. Elle entre donc comme un écrivain classique, peut-être d'ailleurs pour démontrer que cette littérature-là est encore bien vive. En revanche, la façon dont on aurait pu croire qu'en femme respectueuse des traditions et consciente du fait que son élection constitue déjà un bouleversement, elle se coule dans le rite qui est pas du tout.
Pas du tout, non. Sans vouloir faire de l'humour facile, elle fait un peu la coquette. Hein. Elle fait un peu la coquette. Alors, bien sûr, on vient la chercher, ce dont elle est très contente, parce que finalement, tout grand écrivain qu'elle soit reconnu à l'époque, elle est flattée. Elle est flattée, un peu étonnée et flattée. Elle exige de ne pas faire de visite, ce qui tout de même va à l'encontre de tous les rites. Bon. Au prétexte qu'une femme n'est pas reçue par un homme, c'est un homme qui doit être reçu par une femme.
Les hommes doivent se déclarer.
Oui, elle vit à l'époque des salons. Les femmes avaient des salons. Si elle en avait un, ce serait elle de recevoir les hommes. Ensuite, elle refuse de porter l'uniforme des académiciens, au prétexte qu'une femme ne porte pas d'épée. Donc, non, elle ne portera pas cela. Elle se fait faire donc un vêtement très, très particulier par Yves Saint-Laurent. Elle exige même, j'ai observé cela quand je suis moi-même allée assister à des séances sous la coupole, à quelque chose qui est unique, à savoir qu'elle demande qu'il y ait une petite table sous la tribune, alors que d'habitude, le nouvel arrivé se met debout entre ses collègues, tout serré, puisque les fauteuils de l'académie sont très, très étroits, donc très serrés, et reste debout avec un micro. Non, elle exige une petite table en dessous de la tribune. Je ne sais pas pourquoi. Elle ne l'a pas dit, d'ailleurs. Bon. Et après, elle annonce qu'elle n'assistera jamais aux séances de l'Académie. Donc, je crois qu'elle a assisté à une séance dans la foulée de sa réception. Et après, elle n'y est plus jamais retournée. Donc, c'est vrai que certainement, elle ne s'est pas bien fait voir de ses confrères. Il y a eu d'ailleurs une grosse cabale hein, au moment de son élection. Il paraît qu'on s'est dit des tas de mots d'oiseaux épouvantables au moment de la préparation de son élection. Jean d'Ormesson a été très hardi.
Et combatif.
Il a emporté le morceau, mais il a été très combatif. Petite chose, d'autre part, qui a été évidemment assez amusante, c'est qu'on a découvert qu'elle n'avait finalement peut-être pas le droit d'y être, puisqu'en fait, elle ne s'était pas inscrite à l'ambassade de France aux États-Unis, comme tout résident étranger doit le faire. Quand vous arrivez à l'étranger, vous devez quand même aller au consulat et vous inscrire pour rester quand même citoyen français à l'étranger. Elle ne l'avait pas fait. Alors, les gens disaient méchamment, c'est parce qu'elle était belge, qu'on a vite naturalisée française. Non, elle est française, Marguerite Yourcenar. Son père est français et elle est française.
Elle est née à Bruxelles, mais elle est française.
Exactement.
D'une mère belge, quand même.
D'une mère belge, voilà. Mais elle est française. Donc, ce n'était pas du tout le problème de la naturalisation. C'est le problème qu'elle s'était complètement moquée de tout ce qui était... administratif et qu'il a fallu rapidement, par l'intermédiaire de l'ambassadeur ou du consul de l'époque, faire les démarches pour. Donc, à la fois, elle a certainement considéré ça très, très bien d'être à l'Académie française et tout à fait digne de sa personne, mais elle n'a pas joué le jeu. Elle n'a pas joué le jeu.
C'est la question que je vais vous poser au-delà de digne de sa personne, qui est comment a-t-elle ressenti cette élection comme un couronnement, c'est un aboutissement, c'est une, bon, j'imagine, une reconnaissance. A-t-on des traces écrites de la façon dont elle a pu vivre cet événement, son élection pour commencer, hein, au-delà du décorum?
Non, c'est difficile de se mettre à sa place parce qu'elle n'a pas, répondu à la question. Si elle avait répondu directement à la question, je vous sortirais ce qu'elle a dit. Malheureusement, je ne le sais pas. Ce que je pense, c'est que chez ces écrivains expatriés, longuement expatriés, puisqu'elle s'expatrie vraiment dès le début de la guerre, hein, et que là, nous sommes en 80, donc ça fait déjà de longues années qu'elle est là-bas, il y a tout de même quelque chose qui leur manque, c'est la langue française. Elle en souffrait, hein, de ne pas avoir de français autour d'elle. Son amie chère était américaine, elle parlait bien le français, mais comme une américaine, je dirais, sans jeu de mots, académique. C'est-à-dire que c'était un français appris. Hein. Donc, elle manquait de français. Elle disait d'ailleurs que la langue française lui manquait beaucoup. Et, par conséquent, la reconnaissance de son pays, de sa patrie, du milieu intellectuel français. Bon, je dis ça parce qu'au fond, d'une façon très parallèle, Saint-Jean de Perse, qui était lui-même exilé depuis de longues années aux États-Unis, bon, ils ne se sont pas du tout fréquentés l'un l'autre. Elle considérait que c'était un mondain. Certainement, ne la regardait de très haut, donc ils ne se sont pas rencontrés. Il a eu le même réflexe, c'est-à-dire qu'il se sentait quand même très, très loin de l'univers français, très oublié de ses amis français, des critiques français, de la littérature française qui se faisait à l'époque. Ils sont un peu en retard d'un train, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas vraiment ce qui a avancé dans la littérature, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Yourcenar reste très immobile dans son style. Ils sont en retard d'un train, mais ils considèrent quand même que leur personnalité est assez puissante pour mériter d'être connue. Donc, bon, pour Saint-Jean de Perse, l'Académie française, à laquelle certains de ses amis ont cru pouvoir l'amener, a été évidemment interdite à cause du général de Gaulle. Mais Yourcenar, qui n'avait pas pris de position de ce genre, pouvait effectivement aspirer à une grande reconnaissance. Et la coupole en est une, il n'y a pas de doute. L'Académie française en est une. Donc ce n'est pas très étonnant que l'expatriation, malgré tous les sentiments qu'elle a, que finalement, ce qui se fait en France, ce n'est pas la peine de le connaître, le nouveau roman, ce n'est pas la peine de le lire, etc. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait dit oui, qu'elle ait acquiescé. Parce que c'était une façon de dire, je suis peut-être loin, mais je suis quand même bien française. Bien française.
Alors justement, elle est bien française. Le titre de votre ouvrage, c'est Yourcenar, carte d'identité. On aurait peut-être dû commencer par là, après ce petit détour par l'Académie. Bienvenue par l'Académie. Pouvez-vous nous donner sa carte d'identité? C'est un personnage qui est parti en exil, mais parlons un petit peu de ses racines. Situons-la, parce qu'après tout, oui, la généalogie, c'est toujours important chez un écrivain, même si on s'en extrait.
Oui, oui. Alors, elle est née effectivement à Bruxelles d'une mère de bonne aristocratie belge, et d'un père qui, lui, est tout à fait français, de petite aristocratie française. Et cette combinaison est, je dirais, un peu explosive, parce que la famille du père de Michel, comme Yourcenar l'appelle toujours, hein, de Michel, hein, finalement connaît peu et ignore la famille belge, hein, bien qu'il soit si près, puisqu'en fait la frontière près de Montnoir, qui est au nord de l'île et qui est en Flandre française, est à 500 mètres de la frontière. La maison de Montnoir est à 500 mètres de la frontière belge.
Ils sont les Monts de Flandre.
Les Monts de Flandre, exactement. Et donc, ils se connaissent pas du tout. Et pour Michel, c'est son second mariage. Hein. Il a déjà eu une première épouse. Et cet homme est très original. Yourcenar a eu un culte du père qui est absolument stupéfiant. Toute son autobiographie, c'est vraiment une recherche du père. Hein. Donc,
d'autant que sa maman est morte quelques jours après sa naissance.
Oui, c'est ça. Sa mère meurt très très jeune. Elle fait comme si cela n'avait absolument pas compté dans sa vie. C'est fort peu probable. Et son père, effectivement, l'élève. Bon, on ne sait pas très bien quel mot employer, parce qu'en fait, il ne l'a ni élevé, ni éduqué. Il l'a fait vivre à côté de lui, comme c'était un homme un peu un self-made man, très cultivé. Il lisait le latin à côté de lui, le grec un peu plus tard. Elle n'est jamais allée à l'école. Il a été son précepteur. Elle avait vaguement quelques autres précepteurs, mais en fait, elle a été surtout élevée aux lettres françaises et antiques. Et ensuite, elle s'est promenée à côté de lui, de casino en casino, parce que c'était un homme qui jouait constamment, de femme en femme. Non. Elle raconte d'une façon assez pathétique d'ailleurs, mais sans du tout mettre l'accent sur les larmes, que lorsqu'elle était dans ses différents hôtels à Monaco, Monte-Carlo, où il l'emmenait, il partait le soir et elle l'attendait. Elle ne savait pas à quelle heure il allait rentrer. Donc c'était une drôle d'éducation quand même. Et cette éducation a fait cette femme un peu hors norme finalement, c'est-à-dire à la fois très consciente de son intelligence, très consciente de sa culture, très consciente qu'elle n'était pas dans les normes de son milieu social. Petit à petit, d'autre part, évidemment, sur le plan des mœurs, elle a défini des mœurs qui n'étaient pas tout à fait conformes à celles de son milieu social, donc pas d'hommes, pas d'enfants, et des amies féminines, pas si nombreuses que cela, mais en même temps très, très, très tenaces. Et donc, évidemment, elle s'est mise à dos tout son milieu belge, qui, encore maintenant, d'ailleurs, a des propos peu amènes hein, sur elle. Ils veulent bien reconnaître qu'elle est un écrivain, mais ils ont du mal à apprécier le rapport entre la femme et l'écrivain. Hein. Et donc,
elle a quand même rentré à l'Académie royale de Belgique,
oui,
avant l'Académie française.
Absolument, elle en était très très fière, ça. Mais l'Académie royale de Belgique a reconnu l'écrivain, pas, je dirais, l'aristocrate. Hein. Et donc, cette femme, donc, elle vit un peu par elle-même et pour elle-même, et à partir du moment où son père meurt, et il meurt lorsqu'elle a quand même simplement 23 ans, je crois, elle commence à écrire. Elle croit énormément à son talent très, très vite. D'ailleurs, c'est un des propos que Bernard Pivot met en relief dans la très belle émission d'Apostrophe. Il lui dit, sur votre passeport, lorsque vous êtes arrivé aux États-Unis, vous avez écrit écrivain, mais est-ce que vous pouviez déjà penser que vous allez devenir écrivain? Vous n'aviez pas grand-chose comme métier, comme œuvre d'ailleurs.
Profession écrivain.
Profession écrivain. Profession, pas métier, profession, voilà. Oui. Et elle rappelle que quand elle était petite, elle rêvait de gloire. Elle rêvait de gloire. Elle ne savait pas encore de quoi, mais elle rêvait de gloire. Voilà. Donc elle a évidemment une haute idée d'elle-même. Elle travaille énormément pour devenir écrivain. Elle se cherche aussi beaucoup, elle met du temps hein, à comprendre ce qu'est l'écriture et ce que sera son métier. Elle fait des poèmes. Alors ça, c'est pour moi la partie la plus nulle de l'œuvre de Yourcenar. Très, très mauvais poème. Enfin, pour mon goût, en tout cas. Et je pense que d'ailleurs, personne, sauf les fanatiques de Yourcenar, peuvent dire que c'est de la grande poésie.
Lorsqu'on entend son nom, on pense assez rarement à poésie.
N'est-ce pas ? Vous êtes d'accord ? Oui. Ben, ouvrez
les écrits sont
ouvrez
poétiques,
sa poésie, mais vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, pour le coup, c'est daté à un point terrible. Et elle, bon, elle se lance vraiment dans le grand œuvre à partir de Mémoire d'Adrien, même si, de mon point de vue, il y a beaucoup d'autres choses très, très belles d'elle avant et après Mémoire d'Adrien, mais pas forcément ces deux gros volumes que sont Mémoire d'Adrien et L'œuvre noire. Moi, je suis toujours frappée quand on parle de Yourcenar. La plupart des gens vous disent « Ah oui, j'ai lu Mémoire d'Adrien », ce qui est très, très bien, mais c'est dur, c'est difficile, Mémoire d'Adrien. Alors qu'il y a des nouvelles qui sont très, très belles et tout à fait remarquables, des courts essais. Je trouve que dans le bref, elle est formidable, Margaret Yourcenar, parce qu'elle a ces formules bien huilées, bien frappées, qui donnent justement à une nouvelle quelque chose de vif, d'emporté, qui accroche la lecture.
Alors, ce qu'on découvre en lisant votre ouvrage, c'est qu'on a l'image de Margaret Yourcenar comme quelqu'un de retiré du monde, de branché sur les mondes antiques et classiques. Et alors, en découvrant votre ouvrage, on découvre en même temps un autre personnage tout à fait différent, qui réagit de façon souvent sanguine au débat de son temps, qui a presque des tentations militantes, qui n'y cède pas parce qu'elle estime qu'elle est à un âge trop avancé pour s'y lancer, mais qui bouillonne. Un être de passion. On la voit sous l'image d'un être un peu erratique, distancié, dans la maîtrise.
Tout à fait.
On découvre une femme totalement à l'inverse.
Tout à fait. J'ai bien aimé entrouvrir ces fenêtres, effectivement, qui ne correspondent pas à l'image qu'elle donne et souvent qu'elle prétend donner aussi.
Parce qu'elle est joueuse aussi.
Elle est joueuse, elle est rusée. Hein. On le voit d'ailleurs très bien dans l'émission Apostrophe. Je vous conseille beaucoup de la regarder, la visionner, parce que je l'avais montré à mes étudiants et ils avaient été très frappés de la ruse qu'elle avait dans le regard. Elle est à la fois dans cette émission un peu anxieuse. Elle boit tout le temps des petits coups de verre, des petits verres d'eau. D'eau, hein, bien sûr. On sent qu'elle est un peu anxieuse. C'est-à-dire que ce genre lui fait un peu peur. Et en même temps, elle est très, très rusée. On voit très bien qu'elle veut jouer avec Bernard Pivot, qui, comme il est lui-même un peu joueur, l'a très, très bien prise, justement, dans ses petites failles. Et effectivement, le côté bouillonnant est quelque chose qui est très sympathique à découvrir, parce que on aurait vite tendance, en lisant Mémoire d'Adrien ou L'œuvre noire, à penser que c'était un auteur qui était un peu compassé, qui avait toujours cherché à se dominer, à se maîtriser, à être impersonnel surtout, être impersonnel. Or aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme littérature personnelle, l'autofiction, etc., on se dit, mais Yourcenar n'a plus rien à voir avec cela. Faux, complètement faux. Ça m'a beaucoup frappé que justement, plus on entre dans son univers, plus on la voit derrière les personnages, les propos qu'ils tiennent. Vous savez sans doute que dans Carnet de notes d'Adrien, il y a une petite formule qui est très, très amusante. Elle dit « grossièreté de ceux qui disent « Adrien, c'est vous ». Voilà. Alors, on s'arrête là et on se dit « elle a raison, c'est vraiment grossier de penser qu'Adrien, c'est vous ». Oui. Mais c'est quand même, quoique, c'est son personnage rêvé. C'est un rêve d'elle-même. Et en fait, tout est grand écrivain, d'ailleurs, crée des créatures rêvées.
Et à partir des matériaux dont il dispose.
Absolument, absolument. Je lisais l'autre jour une très jolie expression de Burgess qui dit « Un écrivain est toujours inférieur à ses créatures ». Mais c'est ça. La créature est toujours celle qui l'aurait rêvé. D'ailleurs, elle dit que Zénon est un de ses frères. Bon, on ne peut pas être insensible quand on dit des choses comme cela et quand on se cache dans ces personnages pour parler finalement de soi. Et on découvre soi, le moi de Yourcenar, finalement dans ses mémoires qui sont, je trouve, de toute beauté, vraiment impressionnantes même de beauté, ces mémoires. Où, sans jamais parler d'elle, Elle parle de ce qu'elle a détesté, comme sa grand-mère Noémie, qui est pour elle l'antithèse de l'humain et de la femme qu'elle aimerait être, ou au contraire de ceux qu'elle a privilégiés, comme ce jeune Rémo, qui est un de ses oncles, qui est un écrivain manqué, mais qui, par son suicide, évidemment, a beaucoup dialogué avec elle et avec lequel elle a dialogué. Donc, certes, c'est une femme qui est très contrôlée, très dominée, mais en même temps, ce qu'elle domine, comme vous le disiez tout à fait justement tout à l'heure, c'est une passion bouillonnante. Alors, en particulier, effectivement, on est très étonné qu'elle se soit engagée, comme vous évoquiez les choses tout à l'heure, engagée dans des mouvements militants comme la défense des animaux, ça, les abattoirs. Les abattoirs, c'est d'actualité hein, en ce moment, les abattoirs. Eh bien, elle évoque les abattoirs bien avant l'époque où, en France, on évoquait cela. Alors, aux États-Unis, elle va visiter des abattoirs. Ça ne doit pas être agréable, d'ailleurs, quand on est Yourcenar, de visiter un abattoir. Et elle est horrifiée. Et elle a des petits essais que l'on trouve dans le deuxième volume de la Pléiade, d'ailleurs, qui sont épatants. Et elle a l'idée qui est, peut-être choquante pour certains et pour d'autres assez stupéfiante, de dire que les wagons dans lesquels on emmène ces animaux et où on les fait souffrir atrocement ont autorisé les wagons qui ont emmené les malheureux déportés dans les camps. Bon.
C'est une idée un peu audacieuse, même si, de fait, l'aspect industriel et la mise à distance de toute compassion est certainement peut-être un point commun, mais c'est une idée quand même un peu audacieuse.
Oui, non, c'est très audacieux, ça choque, si vous voulez, ça choque, et on ne sait pas d'ailleurs dans quel sens ça choque. Est-ce que ça choque parce qu'on trouve que tout de même, on ne doit pas comparer ces pauvres déportés à des animaux, ou bien parce que tout d'un coup, on se rend compte que les animaux sont maltraités. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est de sa part quand même quelque chose de si original, qu'elle est même allée rencontrer Brigitte Bardot. Alors ça m'a...
Oui, la soutenir. Alors,
ça m'a stupéfaite, parce que je me suis dit, ces deux femmes ensemble, enfin, c'est complètement irréel.
C'est à la fois irréel, un peu étonnant et très réjouissant. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, c'est
ça
réjouissant.
Ça prouve aussi son ouverture d'esprit, sa capacité à être effectivement, comme vous l'avez dit, à ne pas être là où on l'attend.
Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça.
Et... C'est un peu le cas de Brigitte Bardot aussi, d'ailleurs.
Oui. Bon, elle a mal tourné Brigitte Bardot sur certains plans sur lesquels Yourcenar n'aurait certainement pas tourné. Mais en revanche, elle s'est mise à dos le gouvernement canadien, Brigitte Bardot, parce qu'ils ont considéré évidemment que le commerce était menacé. Yourcenar n'avait absolument pas peur de se mettre à dos n'importe quel gouvernement. Hein,
et certainement pas le commerce. À vous lire, on découvre qu'elle voue, et c'est peut-être le fond de sa pensée, parce qu'elle aime beaucoup les animaux, elle a des souvenirs d'enfance, vous les décrivez, beaucoup de... voilà, qui sont très beaux, on sent cette proximité probablement naturelle des enfants avec les animaux, mais elle qui était privée de maman, peut-être que voilà, cette tendresse animale...
Bien sûr.
Je ne veux pas faire de la psychologie de bazar, mais c'est restitué et du coup, ça fait remonter de propres souvenirs à chacun d'entre nous sur l'intimité des enfants avec les animaux domestiques. Mais au-delà de ça, une sorte de fil rouge qui est qui vient peut-être aussi de ses origines aristocratiques, mais de haine des choses utilitaires, utilitaristes, de l'instrumentalisation des choses, des gens, de la nature, tout ce qui peut sembler un peu vol.
Oui, c'est vrai.
Est-ce qu'il n'y a pas ça au fond de son engagement, entre guillemets, écologiste? On n'exploite pas.
C'est très vrai. C'est très bien vu. Je crois qu'il y a cette idée qu'il y a un rapport direct avec la nature et qu'effectivement, il n'y a pas d'intermédiaire commercial, fiduciaire. À la limite, elle préférerait le troc au commerce, en fait. Il y a effectivement cette idée que l'humain doit l'emporter, toujours. L'humain doit l'emporter. Donc, en fait, on doit respecter l'humain dans la nature, parce que nous faisons partie de cette nature, et réciproquement. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est... Je ne veux pas dire primitif au sens dévoyé du mot, hein, mais primitif au sens noble du mot, ou premier, comme dirait Chirac du musée qu'il a voulu concevoir, hein, qui est premier.
Oui, on a l'impression que sa colère est dirigée contre une période un peu spécifique de l'histoire de l'humanité qui commence avec la révolution industrielle, la bourgeoisie,
oui,
et toute la mentalité qui va avec cela. Une mentalité utilitariste, économiste, volonté d'enfermer les choses de façon un petit peu rationnelle et mathématique. Elle qui pourtant... Voilà. Oui. Elle est sur un autre versant de l'humanisme, en tout cas.
Mais c'est tout à fait vrai par rapport à justement à la généalogie qu'elle est en train de réinventer ou de créer, parce qu'elle met beaucoup de romanesque, hein, dans cette généalogie, dans ses mémoires, où justement, lorsqu'elle fait le décompte de ceux qui tiennent une importance pour elle et de ceux qui, au contraire, sont à mettre à la gêne.
Oui, si j'ai bien compris, c'est un tri.
C'est un tri, absolument.
Elle passe sa famille au tamis, sur des siècles.
Absolument. Elle a une certaine indulgence pour ceux qui ont commis des graves fautes en se disant, c'est de leur époque. C'est de leur époque. Est-ce qu'on pouvait réagir autrement? Pas vraiment. Mais en même temps, elle pense que lorsqu'on est justement de son époque et qu'on est convenu par rapport à son époque, on n'est pas digne d'être un aristocrate. Celui qui est en avant de son temps et qui est visionnaire, car elle se sent visionnaire, hein, et visionnaire, lui, il est digne d'être un aristocrate. Et alors, quant à cette...
Je vous interromps, il y a une très belle citation à ce sujet qui illustre ce que vous dites. Elle parle d'un de ses aïeux qui aurait signé l'acte de mise à mort d'un sorcier au XVIIe siècle. Mmh. Et donc, elle écrit à son propos « Il semble tout excusé, puisqu'à l'époque, n'importe quel magistrat eût pensé et agi comme eux. Mais agir et penser comme tout le monde n'est jamais une recommandation. Ce n'est pas toujours une excuse. »
Une excuse.
Elle est rude, quand même.
Oui, oui, oui. Absolument. Mais elle a raison.
Elle a raison. Et c'est très bien tourné.
Je trouve que c'est beau, ces formules, justement, qui... on se dit, elle va dans le sens de tout le monde. Et puis, oup ! Tout d'un coup, on est alerté. Et on se dit, mais oui, elle a raison de nous mettre au-dessus de tout le monde.
Oui, et on s'en veut de l'avoir suivi dans un
voilà,
premier temps.
Voilà, c'est très juste. C'est tout à fait ça.
Elle nous piège un petit peu, comme
oui, l'air oblard. Elle nous piège un peu, c'est tout à fait juste. C'est ça ce qui est bien avec elle, c'est qu'on avance, c'est assez confortable, et puis hop, on est débarqué. Parce que précisément, elle n'est pas comme tout le monde. Dans cette généalogie qu'elle fait précisément, qu'est-ce qu'elle montre? C'est que l'esprit bourgeois qui a contaminé l'aristocratie à partir de la moitié du 19e siècle, hein, de la seconde moitié du 19e siècle, a étouffé les talents, et que la plupart des hommes qui se sont rangés sont devenus de braves bedonnants bourgeois. Elle lit les portraits d'ailleurs à travers ce regard-là, à travers ce miroir-là. Que les femmes ont accepté cette situation finalement d'esclavage. Et elle ne l'est d'ailleurs... elle n'a pas d'indulgence pour elle. Elle considère que c'était à elle de s'en sortir par elle-même, comme elle l'a fait. Donc elles se sont rangées, sont devenues de braves épouses, des pondeuses très malheureuses qui écrivaient quelques lettres, mais qui n'avaient jamais eu le courage d'aller jusqu'au bout de leur virtualité. Et que les seuls qui auraient pu s'en sortir et qui avaient certainement du talent n'avaient pas le caractère pour le faire. D'où les deux frères, là, Octave et Rémo. Très visiblement, il y en a un qui est homosexuel, mais qui veut cacher cela, c'est Octave. Et Rémo, on ne sait pas ce qu'il est, puisqu'il se suicide très très jeune. Il est certainement un poète virtuellement, Et il aurait peut-être pu devenir quelqu'un, une sorte de Rimbaud, mais il se suicide. Donc, il y a chez elle quelque chose qui est de l'ordre de l'inachevé chez ceux qui auraient pu devenir quelque chose et d'étouffant dans cette aristocratie bourgeoise. Elle a une formule d'ailleurs là-dessus sur l'aristocratie bourgeoise que je ne me rappelle pas, mais qui est très, très, très belle.
Je ne sais pas si c'est celle-ci, mais elle parle de l'obéissance des... de l'obéissance des femmes et de la bienséance des hommes.
Voilà, c'est ça.
Et des gens qui s'en tiennent à cela.
Voilà, c'est ça. Obéissant et bienséance, c'est-à-dire on reçoit tous les mardis, on fait ce qu'il faut faire. On fait ce qu'il faut faire, effectivement. Oui. Ouais.
Alors, on a parlé de cette façon qu'elle a de trier dans sa généalogie. De temps en temps, il y a quand même quelques morceaux de bravoure et puis de, parce qu'on pourrait avoir l'impression que c'est une sorte de Torquemada de la généalogie. Pas du tout. Elle a des élans de compassion, d'empathie absolument extraordinaires. Vous écrivez aussi à quel point une de ces façons de faire le tri et de ressusciter ou de sauver, à ses yeux en tout cas, tel ou tel, c'est l'attitude envers, on y revient, les animaux ou la nature. Et je voudrais vous faire réagir sur cet autre extrait de, je pense que c'est des Archives du Nord, où elle s'adresse ainsi à l'une de ses aïeules. Hé, Françoise Leroux, elle ne m'entend pas. En m'appliquant beaucoup, je parviens pourtant à la voir dans sa maison au sol de terre battue. Au sein de commodités et même de luxe d'un autre âge, je fais encore des gestes qu'elle fit avant moi. Je pétris le pain, je balaye le seuil. Après les nuits de grand vent, je ramasse le bois mort.
Oui, ça, c'est un des passages qui est le plus étonnant parce que non seulement elle a effectivement une... elle se projette sur ce personnage qui n'est pas une ancêtre, hein, qui est certainement une femme qui devait être au service de ses ancêtres, mais surtout son langage, tout d'un coup, est bousculé par ce beau langage, cette belle phrase à laquelle nous sommes habitués. Ce « est », par exemple, avec cette interjection et le fait qu'elle s'inscrive, elle, dans le discours, je trouve très, très amusant et très bouleversant. D'ailleurs, toujours pour revenir à Bernard Pivot, à laquelle je rends hommage, parce qu'il a vraiment fait un très, très beau, très bel entretien avec elle, et la chance d'avoir un bel entretien avec elle, il repère cette phrase et il lui dit... À 25 ans, vous n'auriez pas écrit ça. Alors, elle a un petit clin d'œil, là. Elle lui dit, mais pourquoi pas ? Parce qu'à 25 ans, j'ai lu ce que vous aviez écrit. Vous n'auriez pas écrit cela. Et c'est vrai qu'à 70 ans, elle a une espèce de liberté de plume qui est très, très émouvante. On en vient presque à se demander, quand on lit ces trois volumes de ses mémoires, si tout ce qui a précédé n'a pas permis... l'achèvement de cette œuvre-là. Et que, enfin, moi, j'ai presque le sentiment que cette œuvre de mémoire, un peu comme les mémoires d'outre-tombe, est ce qui restera le plus de Marguerite Yourcenar. Plus que peut-être ces belles œuvres bien huilées que sont les deux grands romans.
Alors précisément, vous parlez des œuvres plus tardives. Vous nous apprenez aussi que la vieillesse... une très grande importance à ses yeux.
Mmh.
Et que une sorte de vide entre les deux, en tout cas l'adolescence disparaît, et que enfance, vieillesse sont les deux pôles les plus importants pour Marguerite Yourcenar.
Oui, c'est très étrange. Alors, est-ce que c'est lié à son humanisme ? Parce que c'est une femme dont l'humanisme est extrêmement important. Je parle... de sa pensée humaniste, non seulement qu'elle aime l'homme, mais de son humanisme, la construction humaniste. À savoir qu'au fond, on est soi-même que lorsqu'on atteint une certaine conscience de soi et du monde. Et est-ce que c'est lié à sa biographie ? Parce qu'évidemment, elle a eu une enfance importante, mais... et décisive hein, dans son existence. En revanche, elle a eu une adolescence très difficile, très très difficile. Une fois qu'elle a été orpheline, de mère d'abord bien sûr, mais de père ensuite, elle s'est cherchée pendant quelque temps. Elle était physiquement pas belle, donc ça pour une femme c'est quand même important. Elle était en recherche certainement de son identité sexuelle, et là aussi c'était très important. Il n'y avait pas de stabilité dans sa vie. Elle voyageait beaucoup, elle revenait, elle avait des mots avec les éditeurs, parce qu'elle n'est pas commode, hein, on a oublié de le dire depuis le début de cette émission, mais je crois qu'il faut le dire à un moment ou l'autre.
On le pressent quand même un petit peu en creux.
Donc, elle avait certainement des mots avec les éditeurs. Donc, son adolescence, et ça, je dirais jusqu'à l'âge de 45 ans, 40 ans, c'est une période certainement extrêmement difficile et qu'elle évacue complètement de ses mémoires. Dans ses mémoires, ça n'existe pas, cette époque. Puisqu'il faut bien savoir que le dernier de ses volumes, Quoi l'éternité, où elle devait enfin parler d'elle, il est resté inachevé. Je ne sais pas si c'est une sorte de providence qui fait qu'elle est morte avant la fin. Donc, elle n'aura jamais parlé de ces années qui sont quand même des années difficiles. En revanche, elle a une espèce de sympathie spontanée pour l'enfance. Les enfants, je ne sais pas si elle en a connu beaucoup, mais pour l'enfance, qui fait qu'elle arrive à la représenter dans son œuvre d'une façon qui est quelquefois très, très émouvante. La dernière visite d'un enfant dans la prison de Zénon, qui vient en rêve, hein, bien sûr, qui vient lui rendre visite, et un peu comme l'ange vient visiter Saint-Pierre dans sa prison.
Un songe. Un songe dans le studio. Pourquoi pas.
Comme le montre le tableau de Raphaël, c'est vraiment très très beau. Et bien de la même façon, c'est un enfant qui vient visiter Zénon dans sa prison et elle a une tendresse pour sa propre enfance. Pourtant, elle était orpheline. Donc, c'est vrai que vieillesse et enfance se combinent et il y a une espèce de légende dorée sur le grand-père ou la grand-mère qui tient l'enfant sur ses genoux.
Vous avez dit que la Providence ou son contraire vous avait empêché de lire l'ouvrage qu'elle préparait sur elle-même. C'est étonnant qu'elle ait voulu faire cet ouvrage dans la mesure où elle est traversée aussi, semble-t-il, par une extrême pudeur. Mm-hmm. Vous avez parlé du fait qu'elle n'était pas hors-jeu dans un monde où, aujourd'hui littéraire dans lequel l'autofiction a une grande importance, mais elle se distingue quand même de toute cette production par une pudeur absolument incroyable. Elle dit beaucoup de choses, mais avec une pudeur, une délicatesse inouïe.
Oui, ça c'est tout à fait exact. Elle a certainement d'ailleurs... décidé une fois pour toutes qu'elle parlerait des autres et si elle parlait d'elle, ce serait évidemment à travers les autres. Mais elle a quand même annoncé que dans le dernier volume, elle parlerait enfin d'elle. Donc, on l'attendait là, on l'attendait. Bon, d'autre part, elle parle quand même d'elle dans sa correspondance, qui est énorme, énorme sa correspondance, gigantesque, hein. Et là, bon, vous apprenez beaucoup de choses sur ses déboires avec les éditeurs, ça c'est évident, mais vous apprenez aussi beaucoup de choses sur elle, et puis il y a une correspondance, et certainement peut-être plus d'une, hein, qui n'est pas encore éditée, sans doute pour des raisons justement de confidence, avec des femmes avec lesquelles elle a été évidemment dans sa vie. Donc la correspondance avec Grace, car il y en a une, n'est pas éditée. Donc, il y a quand même chez elle un besoin d'aveu, de confession, de confidence qui est freiné par l'écriture littéraire. Hein. Quand elle sait qu'elle sera éditée, évidemment, elle se freine. Mais c'est ça que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle est personnelle derrière l'impersonnel. Et ça, travailler là-dessus est quand même tout à fait passionnant, beaucoup plus que de découvrir le jeu qui est en même temps celui de la personne dont le nom est écrit en haut de l'œuvre.
Vous avez parlé de son humanisme. C'est quand même une humaniste un peu paradoxale, non ? Cet humanisme teinté... je vais le formuler autrement. Ce goût et cette tendresse pour les animaux, cet attachement à la nature au sens au-delà de l'humain, est-ce que c'est pas aussi le signe d'un... une forme de grand désenchantement à l'égard de la nature humaine.
De grand désenchantement qui empire avec l'âge. Moi, j'ai trouvé que, justement, plus vous avancez dans ses mémoires et plus vous avancez aussi dans sa correspondance, plus vous découvrez son immense pessimisme par rapport à l'espèce humaine.
Donc on peut être humaniste et misanthrope, en fait.
Oui, on peut. La Rochefoucauld est un humaniste misanthrope. Elle est un peu la Rochefoucauld. Elle a le sentiment que les hommes font leur propre malheur et elle voit assez bien, et c'est là qu'elle est quand même assez prophétique, hein, la fin de la planète. Elle voit très bien que la fin de la planète, ça ne sera pas le jugement dernier. Ça sera les hommes qui vont eux-mêmes faire le malheur de leur planète. Et ça, elle le voit à travers toujours ces personnages. Il y a une scène magnifique où elle voit Rémo, justement, qui rentre dans la maison de son grand-père ou de son père et qui voit toute l'industrie qui est en train de s'enflammer tout autour dans la région et qui se dit « mais le pays va être brûlé par tout cela, les forêts vont brûler ». Et donc, à travers lui, elle sait qu'elle peut dire des choses qui lui tiennent à cœur, qui lui tiennent à cœur. Et que, effectivement, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle veut revenir au feu de bois et non pas à l'industrie du chauffage artificiel.
Oui, parce que dans le passage où elle interpelle Françoise Leroux, par-delà les siècles et la mort, c'est pour lui dire, tu as vu, moi aussi je ramasse du bois, voilà. Moi aussi je pétris mon pain. Et semble-t-il, elle avait le souci de revenir à ce mode de vie lui-même et de faire elle-même les petits efforts du quotidien.
Oui. Et d'ailleurs, elle dit à un moment à son interlocuteur qu'elle aurait voulu, si elle avait été plus jeune, elle aurait été hippie. Ce qui quand même fait rire quand on voit.
On peut être hippie dans l'âme sans adopter tous les.
Voilà. Tout à fait.
Toutes les modes, puisqu'elle est au-delà des modes.
Hein. Oui. Complètement.
S'il fallait conclure, est-ce que c'est pas par là l'exigence, le goût de l'antique, tout cela finalement, ça lui permet à la fois de ne pas être esclave des modes, mais de retrouver des choses qui ne sont pas d'hier, mais probablement de toujours.
Oui, je crois que c'est effectivement sa grande idée, c'est que l'humanisme, c'est de savoir rester libre par rapport à son temps, libre par rapport au conditionnement matériel de son temps et libre par rapport à sa propre intelligence. C'est-à-dire de pouvoir dire ce que l'on a envie de dire.
En tout cas, pour progresser, se confronter à sa pensée et à ses livres, c'est probablement une bonne méthode, non ? Parce que l'exigence qu'elle avait pour elle-même et aussi pour les autres... C'est un étalon qui permet certainement de s'élever.
Elle est un peu intimidante parce qu'elle pense un peu plus haut que tout le monde. Donc, on a du mal, je trouve, à devenir son amie. Mais elle est impressionnante. Elle est impressionnante.
Pour conclure, un conseil de lecture pour un jeune auditeur qui n'aurait pas lu Marguerite Yourcenar ou pour tout autre auditeur qui aurait lu les Mémoires d'Adrien. Ensuite, on poursuit par quoi ?
Nouvelles orientales. C'est court et c'est très beau.
Et comme je les ai lus, est-ce que je peux poser une question personnelle ? Si j'ai lu les Mémoires d'Adrien et les Nouvelles orientales, le troisième, c'est lequel ?
Le troisième, c'est lequel ? Le coup de grâce ? Le coup de grâce ? C'est beau, le coup de grâce.
Très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler sur cette antenne.
Avec joie.
Merci beaucoup. Je reprécise les références de votre ouvrage en rechaussant mes lunettes. Yourcenar, carte d'identité chez Fayard par Henriette Levillain. Une autre façon donc de pénétrer dans l'œuvre et d'approcher la vérité de cette femme paradoxale, attachante et si talentueuse. Merci beaucoup Henriette Levillain.
Merci à vous. Thank you.